Il s'agit de la sortie de l'Égypte, Yetzia de Mitzrayim. Okay. Ça s'appellera de façon dérivée par la suite Aliyah. Mais on ne parlera de Aliyah que de ceux qui sont tombés. Okay. Il faut remonter. Et mais l'expression qu'il faut étudier maintenant, c'est Amcha. Qu'est-ce que Dieu veut dire en disant à Moïse, ton peuple ? Suivez bien. Je vais d'abord vous comparer avec un autre verset où Moïse va prier, va intercéder pour le peuple. Vous allez prendre le verset 11, Yudalef. Prenez le verset 11 et je vous demanderai pour la prochaine fois de comparer ces deux versets, en détail, le verset 7 et le verset 11. Lorsque Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. On relira ça plus en détail. Alors Moïse commence à prier. Et Vaihal Moshe et Bene Hashem Elokav. Et Moïse pria devant Hashem son Dieu. Ici, il y a un cas particulier. C'est la seule fois où il y a Hashem, Dieu de Moïse. Hashem son Dieu, pas lui, Moïse. Vaïomer, il dit Lama Hashem, pourquoi Dieu Yechere Apecha Be'amecha? Ta colère s'enflammerait contre ton peuple. Et regardez ce qu'il y a après. Asher, Rotzeta Amelet Misraël. Vous voyez ? Donc on ne parle pas du même peuple. Est-ce que c'est clair ? Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit, ton peuple que tu as fait monter, Asher et Eleta, Mérit Misraël m'a fauté. Et Moïse lui répond en lui parlant de son peuple à lui, en lui disant, pourquoi ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir ? Alors qu'est-ce qui se passe là ? On ne comprend rien. Okay ? Vous comprenez qu'on ne comprend rien. C'est clair ? Bon. Mais retenez en tout cas les deux différences. Et à Eleta, Otseta, et regardez que le mot de Amcha n'est pas écrit de la même manière dans les deux versets. Lorsqu'il s'agit du peuple de Moïse, c'est Amecha avec un Sheva. Vous voyez ? En Sfaradi, on dit Amecha puisqu'il y a un Dagesh. Mais je vous donne la prononciation israélienne ashkenaz, Amcha. Okay ? Vous suivez sur le texte. Tandis que dans le verset 11, Lama yehele apecha be'amecha yan segol. Vous voyez ? Bon, je ne peux pas vous expliquer ça, c'est de la Kabbalah, mais simplement pour vous indiquer que rien n'est au hasard. Okay ? Et comme il y a le même accent, on ne peut pas dire que c'est à cause de l'accentuation. Vous voyez, il y a un zakef katon sur amcha, zakef katon sur amecha. Comment vous dites les ashkenazim, zakef katon aussi ? Les deux points en haut. Les taramim. Ça c'est Ségol ?
Non, c'est pas
Ségol. Non. Donnez-moi. Zakef Katan. Ah, c'est la même chose. Les Zakef Katan, c'est bizarre. Ah, bon. Bon. Alors, vous allez lire avec moi ce que Rashi va dire sur ce ton peuple quand c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous suivez ? Et après, on reviendra sur le texte. Quelle heure il est ? Oui, on a le temps. Vous voulez pas 5 minutes de d'Afsaka ? Et peut-être moi j'en ai besoin. Hein ? Téléphone. Et, alors, regardez Rashi sur ce verset, le verset 7. Qu'est-ce que Rashi dit sur ton peuple quand c'est Moïse ? Slicha, quand c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Okay ? Regardez bien ce Rashi-là et je reviens tout de suite. La racine arov en hébreu a énormément de sens. En particulier, arov, ça veut dire mélanger. Okay. Par exemple, quand on a appris le mot de erev, le soir, c'est le moment où les formes se mélangent. Okay. Arev, c'est un adjectif qui signifie arev en hébreu. Kol arev, vous m'avez jamais entendu ? La voix arev. Quand on dit d'un Hazan qu'il a un col arev, ça veut dire qu'il a une voix douce. Arev, ça veut dire doux. Attendez, il y a un mot en français très précis, mais il m'échappe. Quand quelque chose est arev, quelqu'un est arev, il est séduisant. Okay. Donc, c'est la douceur qui vient du mélange. Il y a d'autres mots pour dire doux, par exemple. Rare, c'est tendre. Tendre dans le sens de... סליחה?
חר.
כמו תקריא זה?
רש.
רש?
רח.
רח, זה נראה. Non, rach. Rach, ça veut dire encore... par exemple, on dit yeled rach, un tout petit enfant. Non, rach, ça ne veut pas dire tout. Matok, ça veut dire sucré. Okay? On dit d'un yeled rach qu'il est motek. Mais c'est, ça, c'est en hébreu moderne. Okay? Mais le mot naïm. Naïm. Naïm, non naïm. C'est un autre sens du mot doux. Ici, le mot arev, doux, c'est l'idée de mélange qu'il y a. Quand on a atténué les contrastes, alors cette douceur qui vient de l'atténuation de. Bon, je voudrais vous habituer à cette mentalité hébraïque et différente. Arev, c'est une autre racine parce qu'il y a. Originellement, il y a plusieurs haïns différents. Arev, c'est une autre racine arev. Ça veut dire aussi. Mais vous avez par exemple les arabes. Arab. C'est la même, une troisième racine d'ailleurs. Bon, et alors je reviens au problème, et voilà le principe qui apparaît là. Au moment de la sortie d'Égypte, il n'y a pas seulement les tribus d'Israël qui sont sorties d'Égypte, mais tout un mélange d'hommes et de femmes, d'autres peuplades, d'autres peuples, si vous voulez, qui étaient asservis dans l'Égypte en même temps que les Hébreux. Et qui sont sortis d'Égypte sur la décision de Moïse en même temps que les Hébreux. Est-ce que vous suivez bien ? C'est une notion très importante, donc il faut bien réfléchir. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu les enfants d'Israël, plus tout un peuple qui s'est adjoint à eux et qui s'est intégré, en fin de compte, chez les enfants d'Israël. Et donc, le peuple hébreu qui descend de la sortie d'Égypte a une double origine. Les descendants des tribus, plus les descendants de toute cette grande peuplade qui a profité de la sortie d'Égypte pour s'intégrer à Israël. Premier point, réfléchissez bien de cela. Okay. Et donc, nous avons deux choses à expliquer. Premièrement, pourquoi Moïse les a acceptés. Okay. Et quel est le sens de cela? En principe, le récit nous annonce qu'une promesse va s'accomplir pour les descendants des patriarches, les tribus, les shvatim. Okay. Et voilà qu'à la sortie d'Égypte se dévoile là, mais ça va être confirmé dans d'autres versets, que pas seulement les descendants des tribus, les Hébreux à proprement parler, les Bnei Israël, sortent d'Égypte, mais les accompagne toute une foule de gens qui avaient eu le même asservissement, donc la même expérience d'esclavage, et qui vont avoir la même Géoula. Et c'est Moïse qui prend l'initiative de les intégrer à Israël. C'est de ce peuple-là qu'est sortie la faute du Vaudor. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien. Ah oui, dès qu'on a commencé à lire ce Rashi, 1000 questions sont apparues. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Et je ne sais pas si on aura suffisamment de temps ce matin, mais déjà, comprenez bien la question. Bien. Et alors donc, nous avons deux catégories d'individus. Les descendants des patriarches qui avaient déjà l'éducation hébraïque de ces 6 générations qu'il y a depuis Abraham jusqu'à Moïse. Vous voyez ? Qui étaient donc préparés par leur identité propre, que Judas et Lévi va appeler le Inyan Eloki, à recevoir la Torah comme elle est. Et puis, se sont adjoints aux descendants des Hébreux des hommes et des femmes d'origine païenne qui n'avaient pas cette préparation préalable et qui rencontrent Moïse dans des catégories païennes. Ça y est, c'est un peu plus clair? Où est la difficulté? C'est pourquoi Moïse les a acceptés en prenant ce risque. Okay. Vous voyez comment la source que cite Rashi ici, c'est un midrash important, c'est qu'il semble y avoir une différence d'opinion entre Dieu et Moïse. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc il faut comprendre pourquoi Dieu a raison de dire « c'est ta faute ». Et pourquoi Moïse avait raison de se mettre dans ce cas? Est-ce que c'est clair? Bon, la première notion, c'est clair jusque-là, je peux avancer. La première notion sur laquelle vous allez réfléchir, c'est que il n'y a rien d'étonnant, c'est que la Géoula doit être universelle, et pour Israël, et pour ceux qui s'adjoignent à Israël. C'est ça qu'il faut d'abord découvrir. Le Messie, finalement, que nous attendons, viendra pour Israël et l'humanité entière. D'une certaine manière, toute proportion gardée, c'est un peu cela, en répétition générale, si vous voulez, qui se passe à la sortie d'Égypte. Donc, d'une certaine manière, on comprend déjà que Moïse sait ce qu'il fait. Mais où est la difficulté? Moïse n'a pas eu le temps de leur donner la préparation qui était nécessaire pour que leur conversion soit kahalacha, soit kasher. Tous ces événements se passent dans une précipitation telle que c'est la seule chose qui nous reste à comprendre maintenant. Moïse a pris le risque de les convertir, Bessitonaout, comme on dit ça en gros, Ken, de telle sorte que la sortie d'Égypte se fasse. Ou d'une autre manière, on va apprendre que Moïse a des raisons de comprendre que s'il ne prend pas avec lui ce Erevra, la sortie d'Égypte ne peut pas se faire pour Israël. Vous suivez? C'est ce que nous avons à comprendre, je viens de dire. Pourquoi? On verra. Vous avez bien lu le verset, les versets? Alors regardez ce qui se passe en schématisant. Lorsque la faute du veau d'or se fait, Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. Et pour qui Moïse prie? Pour Israël. En disant, sauf ton peuple à toi. Qu'est-ce qu'il apparaît de là? C'est-à-dire, si tu détruis le Erevra, ton peuple est perdu. Vous voyez comment? Le plaidoyer de Moïse semble décalé. On va lire le verset d'abord. Regardez bien. Et verset. D'abord verset 7. Ken, suivez bien avec moi. On reprend verset 7. Vaïdaber Hachem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, l'Echred va descendre, qui shichet amcha, car ton peuple a fauté, quel peuple? Asher Eleta Meret Misraïm, que toi tu as fait monter d'Égypte. Et de qui il s'agit? De Goïm, que tu as converti en bloc. Quelle? Sans préparation. Quelle préparation? Retenez bien ce qu'on est en train d'apprendre dans l'autre cours. La préparation de Abraham, Isaac, Jacob, Roulé, jusqu'à la sixième génération, Moïse. C'est toute une fabrication d'identité qu'ils n'ont pas eue. Vous suivez? Sarumaer, ils se sont vite détournés. Minadere Racher Tivitim, du chemin que je leur ai enseigné, Asulaem, ils se sont fait Egel Masecha, un veau en statue, Vaishtahavulo, et ils se sont prosternés devant lui, Vaisbechulo, ils ont sacrifié devant lui, Vayomro, ils ont dit, Ele Elohecha Israël, voilà tes dieux Israël, Asher Elucha, qui t'ont fait monter, Meret Mitzrayim. Ça veut dire, voilà le symbole qui va remplacer Moïse qui t'a fait monter. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé à la manière dont un hébreu peut comprendre. Vous suivez? Vayomer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Raïti et Aramazé, j'ai vu ce peuple-là, ton peuple, hein, ça élève là, Veine, et voici, Am Keshéorefou, c'est un peuple à la nuque raide. Là, c'est un autre sujet qui apparaît, que je vous apprendrai dans un autre cours, et vous voyez ce qui apparaît là. La définition d'Israël comme peuple raide, à la nuque raide, c'est une calomnie. Qu'est-ce que dit la Bible? Qui est le peuple à la nuque raide? C'est pas Israël. C'est tout ce peuple-là qui s'est adjoint à lui. Vous suivez? Et, pas aujourd'hui, mais on apprendra ce que ça veut dire à la nuque raide. Et, en fin de compte, Dieu va pardonner. Et par conséquent, tout ce peuple va s'intégrer à Israël. Et c'est avec ce peuple que s'introduira en Israël la tendance à la nuque raide. Vous suivez? Vous voyez que tout est différent de ce qu'on croit habituellement. Ça veut dire rebelle, Ken. Ve'ata, et maintenant, Anichali, laisse-moi, ça veut dire ne me prie pas, la prière ne pourra rien. Ve'harapi ba'em, ma colère éclatera contre eux. Va'achalem, je les détruirai. Va'essayer autre à l'égoïado. Les deux toits, je ferai une grande nation. Alors, c'est là qu'on arrive à la prière de Moïse. Suivez bien. Va'achal Moshe ben Hachem. Et Moïse pria Hachem, son Dieu, Eloka, va'yomer, et il dit Lama Hachem, pourquoi Dieu, yehere apecha be'amecha, ta colère s'enflammerait contre ton peuple, Hacherotzet ameret Mitzrayim, que toi tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que je suis arrivé à vous faire comprendre ça? Hein? Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. Moïse semble dire, pardonne-le pour ton peuple à toi. Hein? Pardonne-leur, Sira, pour sauver ton peuple à toi. Ça, on n'a pas encore compris comment ça marche, mais vous voyez les éléments du problème. Prenez le verset 12 déjà. Lama yomru Mitzrayim lemor. Pourquoi l'Égypte dirait Bera'a otsiam laharog otam beharim? Dieu les a fait sortir sous un mauvais signe pour les détruire dans les montagnes, les montagnes du Sinaï, vous voyez, le Miklé, là où on fait la guerre cette fois, comme on a fait déjà. Bon, je l'ai dit. Et Me'al Pene Adama, pour les détruire de la surface de la terre, Shuv Meharon Apecha, reviens de ta colère, Ve'ina Hem Alara, et reviens sur ta décision de leur faire le mal, les amécha en faveur de ton peuple. Comment vous le traduisez en français? Non, ça c'est le verset suivant. Ça c'est un verset d'après. Prends le verset 12. Prends le verset 12 et donne-moi juste la traduction de la fin du verset. J'entends pas. Plus fort. Oui. Qui c'est qui traduit comme ça? Non, non, mais donne-moi montre-moi c'est quoi ça. Ah, Vogue. Répète, voir, il manque un mot. Oui, ça veut dire donc, répands-toi du mal que tu voudrais faire à ton peuple. Ici, se repentir, bon, c'est mal traduit, mais en français ancien, c'était exact. Ça veut dire revenir sur une décision. Okay? Ça veut dire change ta décision. C'est plutôt l'idée de regret que de repentir qu'il y a dans l'Einahem. Et donc, vous voyez, dans cette traduction, qui est fausse d'après les Taramim, regardez, sous le Vehinachem alara, il y a un Taram, une accentuation qui est disjonctive. Ça veut dire Vehinachem alara, et reviens sur ta décision de les punir, les Amecha, en faveur de ton peuple. Et non pas reviens sur ta décision de punir ton peuple. Vous voyez que la traduction est fausse, dans tous les cas. Okay? Vous avez une autre Bible traduite? Et où sont données toutes les Bibles en français? Bien, vous n'avez pas une autre? Oui, voyez, dans un autre style, la traduction est fausse, c'est clair? Vous voyez quel est le raisonnement? Et d'ailleurs, vous allez d'abord suivre le verset suivant et je reviens. Zechor, rappelle-toi, les Abraham, l'Israël, ou l'Israël, Abadecha. Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs, Asher Nishbart Alaem Bar, à qui tu as juré par toi-même, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Je schématise de nouveau. Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. On s'attendrait à ce que Moïse plaide pour son peuple. Non, il plaide pour Israël. Et il dit, pourquoi tu vas détruire Israël? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair? Alors quel est le sens? Israël ne peut mettre fin à l'exil. La Géoula ne peut venir pour Israël que si elle est aussi pour tous les autres hommes qui ont vécu la même histoire qu'Israël. C'est-à-dire, une des raisons de la descente en exil, c'est de ramener avec nous ceux qui avaient la même vertu. Okay? Mais on voit qu'il y a un décalage. Ces hommes qui ont suivi Moïse et que Moïse a pris avec lui, ils ont eu cette expérience Galout Géoula. Comme les Hébreux. Okay? Et s'ils ont rejoint les Hébreux, c'est qu'il y a quelque chose qui est commun. Est-ce que vous suivez? Donc Moïse a raison de les intégrer. Mais la catastrophe qui est arrivée dévoile qu'ils n'avaient pas la préparation suffisante. Ils y ont droit, en principe, mais pas en fait. Est-ce que j'ai expliqué suffisamment clairement? Okay? Est-ce que vous comprenez bien cela? C'est pas n'importe quels hommes. Ils ont eu l'expérience de l'asservissement, ils ont eu l'expérience de la libération, ils se sont adjoints aux Hébreux, okay? Ils leur ont dit d'une certaine manière, eh bien, ton Dieu, c'est mon Dieu. Mais voilà qu'il y avait un malentendu de vocabulaire théologique. Ils disaient ça de manière païenne. Donc, en principe, eh bien oui, ils seront avec Israël. Mais en fait, pas encore. Est-ce que, je ne sais pas, pour dire ça en français, c'est très difficile. Okay? En principe, oui, en fait, pas encore. Et c'est l'événement qui fait éclater cette disproportion. Donc, d'un certain côté, Moïse a raison, il a pris le risque. Et voilà que le risque a été pris. Alors, Dieu formule le jugement absolu. Échec. Donc, on les annule. Mais Moïse va intercéder en disant, il va faire deux prières d'abord. La première, c'est celle-là. La deuxième prière qu'il va faire, après, c'est pour le peuple. En question, quand Israël est intégré, il devient comme Israël, il est soumis à la loi d'Israël, il faut donc prier pour lui. Mais c'est la deuxième prière. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré déjà dans la lecture. C'est pour ça que je vous ai demandé de préparer tout ça. Okay, vous vous rappelez qu'après, il y a encore une deuxième prière de Moïse. Mais je vais vous donner les versets encore ce matin. Alors, suivez-moi bien. Le raisonnement de Moïse est le suivant. Si tu détruis le Erevrav, alors ton peuple est perdu. Il sera obligé de redescendre en exil parce que ça a échoué, il faut qu'il recommence. Alors, pour sauver ton peuple, sauve cela aussi. Vous avez compris? Finalement, Dieu va accepter et il va intégrer ce Erevrav qui est Kriam Keshehorev à Israël. Et c'est pourquoi cette Mida, comment vous allez dire, dimension de Keshehorev va rentrer en Israël. Mais c'est a posteriori. Elle ne lui appartient pas a priori. Ça veut dire qu'Israël prend sur lui la difficulté d'être de l'humanité universelle pour la sauver. Les défauts d'Israël, ça nous vient du Erevrav. Israël, pour se sauver tout seul, c'était facile. Abraham, Isaac, Jacob, Kamarnou. Et tout le reste de l'humanité disqualifiée. Qu'est-ce qui se passe ici? Une chose énorme. Israël, à la sortie d'Égypte, sur la décision de Moïse, prend sur lui l'identité de l'humanité non-Israël pour la sauver. Et c'est pourquoi s'introduisent en Israël la capacité de faute d'Egoïm par le Erevrav. Est-ce que vous avez bien saisi ce qui se découvre là? Okay. Je vous donne un exemple peut-être pour illustrer. C'est dont nous allons voir. C'est pas Israël qui a le Keshehorev. C'est les autres peuples. Mais Moïse décide que cette sortie d'Égypte doit réussir, donc il faut, avec rapidité, rapidement, je ne sais plus comment on dit ça en français, sans précaution, les faire passer, et puis on verra bien après. Okay. Il y a toute une dialectique entre Dieu et Moïse où finalement Dieu va accepter parce que c'est ça qu'il fallait faire. Et puis l'épuration de cette faute va se faire à travers tout le temps de l'histoire. Jusqu'à la fin des temps, nous avons à évacuer cette scorie qui vient des non-préparés à la manière des Hébreux. Dans le peuple d'Israël d'aujourd'hui à travers les siècles, disons le peuple juif, il y a les descendants des Hébreux, ça c'est les tzadikim, okay, et il y a les Juifs. Et les Juifs, ça descend du Erevrav. Et personne ne peut dire, sauf ceux qui savent, mais ils ne disent pas, de qui on descend. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez bien compris? Est-ce que c'est bien clair? Alors, à une minute, je voudrais terminer. Quelle est la différence? Okay. C'est que Moïse n'a pas le temps de leur donner la préparation qui a fait qu'Abraham devient Moïse. Okay. Et donc, il les prend d'emblée, il a suffi qu'ils disent, mais on est avec vous. Et il va dire, rentre. Exactement comme on commence le céder de Pessah. Okay. Halach ma'anya, diachlu avatana be'arad et mitzrayim, kol dirfin yete ve'yechol, kol ditzrich yete ve'yifsah. On ouvre la porte. Vous connaissez le céder de Pessah. Okay. On ouvre la porte et on proclame que tout celui qui veut faire Pessah avec nous vienne. C'est exactement ce qu'a fait Moïse. On fait Pessah, le passage, la sortie, que tout celui qui passe avec nous passe. Okay. Et Moïse prend l'initiative sans préparation. Alors éclate la catastrophe. Okay. Alors vous voyez quelle est la dialectique qui se met en place. Dieu dit, ces juifs-là, j'en veux pas. C'est pas des juifs. Et Moïse dit, mais si tu les prends pas, tes vrais juifs à toi sont perdus. Alors, pour sauver cela, sauve cela. Vous avez compris? Bon, je répète l'explication pour que vous la compreniez bien. C'est pas que Moïse a eu tort d'accepter des convertis. C'est rien que pour ça qu'il fallait passer en exil, pour amener les âmes, les neshamot, qui sont compatibles à Israël et qui sont dehors. Vous suivez? Seulement, il faut une préparation. Il n'a pas eu le temps. Voilà ce qui se passe. Ça y est, vous avez bien compris? Tout va bien. Aujourd'hui, les catégories sont claires. c'est Giyur Kahalacha ou Giyur Pakahalacha. Vous voyez pourquoi le problème est grave, hein? Ou bien le Giyur se fait selon la halacha, il est kasher. S'il ne se fait pas selon la halacha, il n'est pas kasher, c'est Erev Rav. Ça y est, c'est clair? Vous voyez pourquoi les tribunaux rabbiniques sont tellement méticuleux quand c'est des tribunaux rabbiniques. Qu'est-ce que tu veux dire?
Pourquoi une règle ne peut pas exister sur la loi?
Je n'ai pas dit ne peut pas exister. J'ai dit, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir avec Israël ceux, les autres créatures du même bon Dieu, qui sont de la même sorte d'Israël, perdus chez les Goïm. À la sortie d'Égypte, ils se sont dévoilés. Ça y est, vous avez votre messianité, on va avec vous. Okay? Et Moïse les a acceptés. Comprenez bien, vous voyez la difficulté, ta question l'éclaire, et je vous le répète souvent, vous pouvez comprendre l'enseignement de la Torah qu'à l'intérieur d'un monothéisme absolu, que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'humanité entière. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, on ne comprend pas ce que la Torah nous explique. Vous suivez? Ça veut dire, il y a chez les autres peuples des individus qui sont de la même sorte qu'Israël, mais camouflés, perdus. Okay? Quand les patriarches ont constitué l'âme d'Israël, il y a des étincelles qui sont restées dehors. Une des raisons de l'exil, c'est de les ramener. Vous y êtes? Alors, la dialectique de Moïse est très claire. Okay? Pour que la Géoula d'Israël soit possible, il faut que j'accepte le Erev Rav. Bien sûr, il a fauté. Mais si tu les détruis, alors la Géoula, c'est un coup pour rien. Alors il faudra qu'Israël retourne en exil pour ramener ces âmes-là. Vous y êtes? Ça y est, c'est plus clair? Bon, je comprends très bien la difficulté. Mais habituez-vous bien à cela et revenez sur ce problème. Et pour bien comprendre l'enseignement de la Torah, il faut comprendre le monothéisme. Et le monothéisme, c'est pas que Israël a un dieu à lui tout seul et les autres d'autres dieux. C'est le même qui dirige l'histoire de l'humanité entière. Est-ce que c'est clair? C'est comment dire? C'est dans l'économie, à l'intérieur du monothéisme total, qu'on comprend ce problème. Vous avez compris? Bon, ici la difficulté qui apparaît, c'est que Moïse veut vraiment sauver Israël. Alors pour cela, il faut sauver le Erev Rav. S'il avait attendu les 190 ans, mais il y avait urgence, vous vous rappelez? En 190 ans, il avait le temps de les préparer, ces Neshamot-là. Alors nous, on va mettre 1900 ans a posteriori pour les arranger. Mais, ça y est.
Moïse ne peut pas, de toute manière, sauver Israël d'une seconde Géoula.
C'est ce qu'il a essayé de faire.
Mais la première ne s'est faite qu'en Égypte. Pourquoi seulement ramener des gens d'Égypte?
Mais écoute, nous sommes dans un temps de civilisation. Dans ce temps de civilisation, la civilisation en question arrive à être totalitaire, l'Égypte des pharaons. Okay? Et puis, à ce moment-là, cette civilisation va éclater et la sortie d'Égypte se fait. Si ça avait réussi, c'était ça le temps messianique. C'est ce que Moïse veut faire, il veut le réussir absolument. Et puis voilà qu'en fin de compte, il a fait tout ce qu'il a pu pour que ça réussisse, mais ça va finir par échouer. Alors donc, on recommence avec un autre empire. Okay? Vous suivez? Mais Moïse vise le plus haut possible. Et c'est pourquoi ce récit nous est raconté. C'est le récit d'une histoire qui est la nôtre et qui a échoué une fois. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle nous est donnée comme modèle. Vous voyez, c'est clair? Il n'y a que trois tentatives. La dernière ne peut que réussir. Et nous y sommes.
Pourquoi Aaron n'a pas essayé de dissuader...
Pourquoi qui?
Aaron n'a pas essayé de dissuader de...
Bon, je ne vous ai pas traduit ces versets-là, parce que je ne voulais pas m'occuper de ce problème ce matin. D'une certaine manière, dans le même sujet, parce que lui aussi espérait que ça allait s'arranger. Vous voyez? Et c'est même plus profond que ça. Il a dit, si c'est moi qui fais ça, qui veux le faire, je le fais cachère. Eux vont le faire pas cachère. Moi, je vais leur faire cachère. Bon, mais ça, on verra ça après. Un tout autre sujet. Non, pas du tout. C'est un tout autre sujet. Ça fait partie du problème de la différence de nombre entre les fils premiers-nés des Kohanim et les fils premiers-nés du Israël. C'est un tout autre sujet.
Vous avez dit qu'il y a une différence entre le compte de Moïse et le compte du peuple. fait oui. Mais est-ce que les Hébreux ne comptaient pas comme Moïse?
Je veux dire, là on arrive à un autre problème, mais je n'ai pas le temps ce matin, c'est ceci. Finalement, nous avons un peuple qui a deux parties. Les Hébreux mamash, qui n'ont jamais n'auraient fait cette faute-là, et qui attendaient Moïse, qui savaient très bien que Moïse, ce n'est pas une divinité païenne. Okay? Et puis le Erevrav, qui avait sa propre familiarité de l'idolâtrie habituelle de ce peuple-là, mais du dedans de cette population païenne sont sortis ces hommes qui ont pressenti cela. Le Messie des Hébreux est là, on va avec lui. Okay? Je pense que c'est clair. Et alors vous voyez, au moment de la faute du veau d'or, c'est que vous n'avez pas lu attentivement ces textes-là, relisez-les bien attentivement, tout ce qu'il y a là-dedans dans ce récit, comment ça s'est passé. Au moment de la faute du veau d'or, l'ensemble des gens qui sont sortis d'Égypte, les Hébreux et les Hébreux, s'est divisé en deux camps. Les Hébreux qui ont essayé d'empêcher cette faute et ceux qui voulaient la faire. Et il y a eu conflit. Mais on apprend que ni un camp ni l'autre n'arrivait à surmonter. Ça veut dire, quelle est la faute des Hébreux eux-mêmes? Pas d'avoir fait ça, mais de n'avoir pas pu l'empêcher. Vous y êtes? C'est ça le problème. Et remarquez bien que depuis ce temps-là, le peuple d'Israël se divise toujours en deux, grosso modo à peu près 51-49%, okay, les uns et les autres, dans tous les problèmes. Et que les tzadikim n'arrivent pas à être plus forts que les rechaïm, et que les rechaïm n'arrivent pas à être plus forts que les tzadikim. C'est la raison pour laquelle le Talmud enseigne, il suffit d'un juif pour faire pencher la balance. Et ce juif, ça peut être toi. Vous avez compris le problème? Parce qu'on est toujours dans le même problème, la moitié là, la moitié là. Alors chaque fois, ça dépend que d'un pour faire basculer la balance. Marquez ce qui se passe à la Knesset. On n'arrive pas à s'en sortir. Okay? Il y a cela à propos de chaque problème. Tout de suite, ça se divise en deux. Vous avez remarqué cela. Bon, mais vous aurez des surprises quand on continuera à étudier cela. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin du cours. Le Erevrav n'est pas forcément là où on croit qu'il est. Okay? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et La plupart du temps, ils se trouvent d'Afka chez ceux qui se prennent pour des tzadikim. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient très pieux, ces gens-là, qui voulaient se faire un culte. Ils l'ont fait en or. Et c'est ce que Josué va dire quand Moïse descend de la montagne, vous rappelez du texte, et quand Moïse dit, mais j'entends une voix, un bruit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors Josué lui dit, c'est pas ni des cris de victoire ni des cris de défaite. Des cris. Ça veut dire on n'arrive pas à savoir quel camp va gagner. Pourquoi la Gemara dit, ça suffit d'un pour faire pencher la balance. Et je vous ajoute ça parce que c'est important à comprendre. Et ce un, ça peut être n'importe qui, toi. Et même à l'échelle individuelle, nous avons tout ça en nous. Nous avons la moitié hébreu, la moitié erevrav. Et il suffit d'une action pour faire pencher de l'un à l'autre. Une mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, comprenez bien ça et oubliez, parce qu'on ne peut pas vivre avec un tel programme. Okay. Mais c'est comme ça que c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Une question. J'ai lu le pérouche de Ben Ezra et de Yehuda Lavi sur le premier verset. Il dit que. Il ne savait pas que c'était pour 40 jours et qu'il était parti sans manger.
C'est un niveau astrologique dans lequel je ne vais pas rentrer là-dedans. Laissez ça de côté. Je vous ai dit mille fois. Okay. Vous commencez à étudier. D'abord, il faut étudier sérieusement. Assez avec les sources en français. Okay. Commencez par l'alphabet comme il faut. Et un jour, vous arriverez à lire comme c'est écrit et à comprendre. C'est clair? Vous êtes en train de vous encombrer la tête avec des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est écrit en français. Et que l'implication du sens des mots n'a rien à voir avec les sources qu'on vous a traduites. Ces livres-là ont été écrits pour les ignorants. Vous voulez être des ignorants? Vous voulez perdre du temps pour rien? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Bon. Vous avez le temps d'apprendre toutes ces choses-là, vraiment comme elles sont. Mais Léat, commencez par Rashi en hébreu. Alors vous vous aidez du français pour savoir à quel point vous ne savez pas lire Rashi. Jusqu'au moment où vous savez lire Rashi, vous laissez le français de côté. C'est clair? C'est ce que à quoi j'ai fait allusion rapidement tout à l'heure. Et je voudrais terminer là-dessus. Il a suffi d'un retard Ne rentrez pas dans les détails, ça c'est des problèmes qu'on apprend dans la Kabbalah. Okay? Il a suffi d'un retard, selon leur compte à eux, leur calendrier à eux, de la descente de Moïse pour qu'ils se sentent perdus. Okay? Et alors se déclenche le culte de Moïse à la manière dont eux étaient habitués à qu'est-ce que c'est un culte. Et les Hébreux ont dit, Ribbono shel Olam, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Bon, alors la tribu de Lévi prend l'initiative, à moi les Hébreux, mon joie Saint-Denis, suis au païen, okay? Mais on n'a pas réussi à aller. Vous voyez le problème, okay? Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est ça notre histoire jusqu'au bout sur ce problème. C'est que nous sommes jusqu'à la fin des temps mélangés les Hébreux et les Hébraves. Et il s'agit de savoir qui va être plus fort que l'autre. Est-ce que c'est clair, toi? J'arrive simplement à cette dernière explication. C'est que, quel est le chidouche que Moïse apporte comme loi de la Géoula, la loi morale à la place de la religion païenne? La religion païenne, c'était l'idolâtrie des influences naturelles sur la vie humaine, qui était représentée par des cultes idolâtres qui représentaient les signes du zodiaque. Ce veau-là, c'est le taureau du zodiaque. Okay? C'est clair? On était sorti d'un signe du zodiaque où gouvernait le bélier, on va rentrer dans le signe suivant, et d'après des lois de l'astrologie très compliquées, alors on prend comme divinité le signe précédent, le signe ancien. Bon, oubliez les détails, je ne suis pas chargé de vous enseigner l'astrologie. Et alors, est-ce que vous me suivez, Ken? C'est-à-dire, ils ont voulu représenter, sous leur manière idolâtre, à laquelle ils étaient familiers, l'événement qui s'était passé. Je vais vous dire une chose précise, mais et vous oubliez, pour vous comprenez bien qu'il y a toute une chorma derrière. Le jour de la sortie d'Égypte, on est sorti du signe du bélier pour rentrer dans le signe suivant. De la même manière qu'à l'époque précise de la proclamation de l'État d'Israël, on est sorti du signe des poissons pour entrer dans le signe du Verseau. Très bien. Et alors, de la même manière que lorsqu'on est sorti du signe de la Vierge pour entrer dans le signe des poissons, les chrétiens ont dit le Sauveur est né de la Vierge. Mais voyez où ça se passait en astrologie. Okay? Et heureux les simples, ils ont dit, et cette Vierge, eh bien, elle s'appelle Marie, c'est une petite juive, c'est la sœur de Moïse. Oui, le problème. Et alors, vous suivez, il y a là une idolâtrie de religion des mythes astrologiques. Okay? Alors, leur calcul de la sortie du zodiaque, là, il y avait 6 heures de décalage. Bon, je referme toute cette parenthèse, simplement pour vous entendiez que c'est beaucoup plus sérieux qu'on peut le supposer, et effectivement d'ailleurs, l'humanité est en train de sortir, enfin le système planétaire dans lequel on vit, est en train, enfin, ça prend quelques centaines d'années, mais il y a un point précis, est en train de sortir du signe des poissons, l'église des poissons, c'est fini, l'église des poissons c'est la chrétienté, okay, vous savez qu'ils se sont, bon, et puis on rentre dans le temps du Verseau. Et à ce moment-là, Israël sort d'Égypte. Cette Égypte s'appelle Rome. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quelques années, l'Église catholique a changé un rite très important de sa liturgie. C'était le fait qu'on mangeait que du poisson le vendredi, et puis ils ont donné l'autorisation de lever ce rite-là. C'est fini avec les poissons. Vous avez remarqué? Et vous avez... Bon. Et alors, voilà donc ce qui se passe, ce que je vais expliquer. Le chidouche apporté par Moïse, c'est qu'on va sortir des rites astrologiques et on va découvrir la providence qui dirige le monde par la loi morale. Qu'est-ce que leur a apporté Moïse? Assez avec l'idolâtrie des astres, c'est la loi morale. Okay? Et alors, tant que Moïse est là avec sa loi, eh bien, ils le suivent, tout en le voyant comme une sorte de l'espèce de sauveur des religions à sauveur à la manière païenne, et c'était ça la takala, la catastrophe, okay? Mais quand Moïse n'est plus là, ils sont perdus, ils reviennent à leur idolâtrie ancienne, et c'est clair. Voyez donc cette gravité de la faute d'introduire la mentalité païenne dans Israël, et il nous faut jusqu'à la fin des temps pour l'évacuer. Mais c'est ces hommes là qu'il faut sauver, ces hommes et ces femmes. Parce que c'est eux qui ont compris Galout Geoula. Seulement, il leur manquait les 6 générations des enfants d'Israël. Et ça, il faudra le leur donner a posteriori. Vous suivez? Bon. Bon, je crois que grosso modo, vous avez atteint un premier point de ce problème, et nous continuerons donc. Echad. Venir Charles le Gamre. Echad. Oui, ben Nisouet Arovet, ben Misri Echad, ben Yehudi Israélit Ahad. Là, si vous voulez. Comment? Peu importe, on ne les compte pas, ils sont. Beaucoup.
Est-ce que c'était les mains qui s'étaient révoltés de des marmites de viande? Ce qui s'est passé avant dans les
c'est relire. Il y avait des hébreux avec eux, mais c'est
suite de la paracha, qui dit ça?
Dans tous les cas, reprenez votre texte. Donc vous êtes au chapitre. Tout le monde a un livre. Bon. Alors, prenez essentiellement deux choses. Premièrement, la différence entre les deux parties du peuple dans ce problème. Alors, je vous rappelle les versets sur lesquels vous appuyez cette référence. Alors, vous avez d'abord le verset 7. Reprenez le verset 7. Bon, dans tous les cas, pour bien comprendre ce problème, il faudra que vous repreniez le récit de ces différents chapitres plusieurs fois, de telle sorte d'avoir bien les détails en tête. Mais je veux surtout vous donner dans le cours les points d'articulation qui vous permettront de comprendre ce qui s'est passé là. Alors, je relis d'abord le verset 7. Et ce qui se dévoile à partir du verset 7, c'est qu'il y a une partie de ce que nous appellerons le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui n'était pas originellement du peuple d'Israël. J'ai commencé déjà à expliquer ça la dernière fois. Et qu'on appelle en hébreu le Erevra. Donc, il y a aussi d'autres termes que vous trouverez dans le texte. Et en particulier le mot de Asafsouf, que vous trouverez une autre fois, mais je ne veux pas l'expliquer aujourd'hui. Alors, Vaïdaber Hachem El Moshe, c'est-à-dire, pendant que se passe en bas de la montagne cette scène qu'on appellera donc en français la faute du veau d'or, pendant ce temps-là, Vaïdaber Hachem El Moshe, alors Dieu dit à Moïse, l'air red va, descend, qui shichet amecha. Il faut dire Amcha en prononciation moderne, mais il y a un dagesh dans le. Regardez bien le mot. Vous avez un dagesh dans le même. Okay? Alors, bien qu'il y ait un Sheva sous le même, en prononciation ashkenaz, on dit Amcha, mais puisqu'il y a un dagesh, il faudrait dire Amecha, pas exactement E comme Seré ou Segol, mais un Sheva de Goucha se prononce E quand même. Une autre sorte de E. Tout ça, ça s'est un peu perdu dans la. Avec le temps de la prononciation, mais chez les Sfaradim, on dit Amecha quand même. Bon, finalement, on prendra l'habitude de dire Amcha. Mais n'oubliez pas qu'il y a un dagesh. Mais vous faites la différence avec le Amecha, avec Segol, de la première prière de Moïse, et qui se trouve au verset 11. Ken? Mais regardez votre texte. Prenez le verset 11. Vaïhal Moshe Pene Hashem Eloka, Vaïomer, Lama Hashem Yehere Apecha Be Amecha. Et là, il y a un Segol. Bon, voyez donc, je ne prendrai pas le temps de l'expliquer ce matin, voyez donc qu'il y a une différence dans le sens du mot. Puisque dans tous les cas, ça veut dire ton peuple, mais ça signifie que lorsque Ram se décline avec un Sheva ou avec un Segol, il y a une petite différence. Mais c'est trop dac pour qu'on l'apprenne aujourd'hui. Il apparaît quand même qu'il y a un peuple qui s'est adjoint aux Hébreux à la sortie d'Égypte, qu'on appelle le Erevrav. Et Erevrav, littéralement en hébreu, ça veut dire le grand mélange, un grand mélange d'individus. Alors, je reprends cette définition à travers la lecture du verset. Alors, suivez de nouveau. Vaïdaber Hachem El Moshe, Et Dieu dit à Moïse, l'Ech red, va, descend. Ça signifie, sous-entendu, descend de la montagne. Mais tout à l'heure, on va voir Rashi, qui va nuancer un petit peu de façon différente. On va voir tout à l'heure. Va, descend. Ki shichet amecha, car ton peuple, cette racine, shichet, le sens le plus simple, qu'est-ce que ça veut dire les shahet? Qui connaît le sens étymologique? Ma? J'entends pas, parler plus fort. Non, shrita, c'est avec un tête. C'est avec un tab. Ma? Ben, où vous connaissez? Vous connaissez pas. Qui connaît le mot les shahet en hébreu? Personne. Les shahet, ça veut dire détruire. Mais ici, le sens est les shahet et darko. Détruire son chemin, mal se conduire. Shichet. Vous suivez? C'est-à-dire, vous ajoutez sous-entendu le mot de derer. Derer, ça veut dire une route, un chemin, une voie VOIE, dans le sens qui est en français aussi, la manière de se conduire. C'est comme s'il y avait écrit Kishihet Amcha et Darko. Je vous donnais une référence, vous avez cette expression.